fascinent autant qu'ils inquiètent ou étonnent, sont toujours à la limite du scientifique et du paranormal et préservent une part de mystère qu'il est bon de soulever. Ou pas, on va voir. Aujourd'hui, nous allons parler OVNI, ces objets volants non identifiés qui font l'objet de moult d'études et de recherches. Et aujourd'hui, c'est avec Vincent Coste que nous allons en discuter. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Merci Vincent d'être parmi nous. Vous êtes venu en cette fin du mois d'avril en Auvergne pour mener une conférence, mais aussi rencontrer un lycée Clermontois, un collège depuis Guillaume, on y reviendra. Avant présentation, vous êtes ingénieur optique depuis près de 30 ans et chef de service au Centre National d'Études Spatiales. Et depuis près de 2 ans, vous êtes responsable manager du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est peut-être même un terme d'ailleurs qu'on préférera aujourd'hui à OVNI.
J'ai pas de problème avec le terme OVNI, simplement le PAN, le phénomène aérospatial non identifié, ça dit juste que ça peut être un objet, donc un OVNI, et ça peut être aussi un phénomène optique. Donc c'est une façon pour généraliser un petit peu le type d'observation.
Alors, je vous ai défini comme tel parce que vous ne vous définissez pas comme ufologue. Pourquoi ? Est-ce que c'est le fait que ça soit aujourd'hui peut-être pas reconnu ?
Je ne suis pas du tout ufologue, c'est-à-dire l'ufologue est quelqu'un qui est passionné, qui s'intéresse à l'ufologie. Voilà, le GEPAN est vraiment là pour étudier les phénomènes inexpliqués. On est juste une démarche technique d'analyse, d'étude, d'enquête. Voilà, l'ufologie, c'est bien au-delà, c'est un périmètre qui est beaucoup plus vaste.
Et qui concerne des scientifiques, mais pas seulement.
Pas seulement.
Ça peut être aussi tout un chacun passionné.
Voilà.
C'est comme ça qu'on peut aujourd'hui décrire cette science ou pseudo-science. Ça dépend comment on le regarde.
Je peux réagir, excusez-moi. Le terme pseudo-science me dérange tout de suite.
Il est considéré comme ça par certains détracteurs de l'ufologie.
Oui, 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 oui. Mais du coup, voilà, donc de pseudo-science, le GEPAN n'est pas du tout, n'est pas une science d'abord. Hein, donc c'est vraiment, en termes GEPAN, une démarche technique d'analyse.
Alors, on va en parler justement de ces analyses et de ce que vous faites, du but de vos missions et de vos activités. Déjà, pour comprendre aujourd'hui ce qu'est un OVNI ou un PAN, un phénomène aérospatial non identifié, comment on pourrait le décrire dans le détail ? C'est-à-dire, à quoi ça correspond exactement et peut-être en cassant l'image un peu cliché ou la représentation un peu subliminale qu'on pourrait s'en faire ?
J'aime beaucoup votre question parce qu'effectivement, il y a des a priori tenaces et j'espère donner à voir, montrer l'étrange. Hein, c'est-à-dire que oui, bien sûr, des gens observent des phénomènes inexpliqués, des phénomènes étranges, vous avez dit mystérieux, voilà, on peut qualifier de bien des façons différentes, mais ça existe. Hein, c'est une configuration, une situation où un témoin va faire l'expérience d'une observation qu'il ne comprend pas.
À partir de quand ou de quels critères on peut définir un phénomène comme un OVNI ou comme un PAN ? C'est justement dès qu'on a franchi la limite de la compréhension que ça le devient.
Alors, pour répondre à votre question, vous parlez de critères. Le phénomène inexpliqué, on ne les prend pas tous en compte. Hein, au GEPAN, on a des phénomènes physiques. On va s'intéresser aux phénomènes physiques. Vous avez parlé de paranormal ou de choses voilà, qui sont d'une nature, je dirais, beaucoup moins scientifique. Tout ce qui est paranormal, le GEPAN ne couvre pas, n'a pas de compétences pour aller sur ces terrains-là. Donc on adresse l'aérospatial, hein, l'aérospatial c'est aéronautique, spatial, tout ce qui se passe dans le ciel. Voilà, tout ce qui est paranormal, expérience d'enlèvement, on peut avoir des témoignages de cette nature-là, très peu, ceci dit, hein, que chacun ne retienne pas que les témoignages sont uniquement... je dirais, de paranormal ou d'enlèvement.
La plupart du temps, les situations sont explicables et expliquées, il faut le dire quand même.
C'est ça, c'est-à-dire que dans les témoignages que l'on enquête, 60%, 65% de nos enquêtes sont expliquées. Expliquées de façon sûre ou quasi sûre, on tient probablement la bonne explication, en tout cas c'est notre estimé. Donc dans un tiers des cas complémentaires, c'est juste qu'on... On n'a pas suffisamment d'éléments techniques pour analyser. Hein, il faut bien avoir conscience que le témoin se tourne vers le GEPAN pour exposer, décrire un phénomène inexpliqué. Quand il y a une image, quand il y a une vidéo, la chose aide à l'enquête. Quand c'est juste une description, il faut bien comprendre que la démarche et l'exercice qui est le nôtre, l'étude, consiste à déjà bien comprendre, bien extraire l'information d'une description qui est faite par un texte rédigé par un témoin. Et donc pour terminer, il y a environ 3% des cas qui restent inexpliqués, c'est-à-dire que pour lesquels on estime avoir suffisamment de données, suffisamment de paramètres d'observation, d'environnement, de description du phénomène. Et pour autant, on n'a pas trouvé la clé, on n'a pas trouvé la bonne hypothèse, l'hypothèse qui pour nous donnerait suffisamment de satisfaction pour estimer que c'est l'explication probable.
Une explication qui pourrait relever du scientifique, mais aujourd'hui que le scientifique n'est pas en mesure d'exprimer ou d'expliquer.
Tout à fait.
Comment aujourd'hui vous établissez ces enquêtes ? Sur quoi vous vous basez pour réussir à trouver, à définir, à identifier un objet volant ?
Alors l'enquête, c'est un peu le cœur du réacteur hein, de l'activité GEPAN. On a trois grands volets. Le premier, c'est le recueil du témoignage. Là aussi, hein, avant l'enquête, recueillir le témoignage, c'est une étape importante et il y a du savoir-faire au GEPAN pour pas polluer toute l'enquête derrière. On vient sur l'enquête, c'est votre question. Et je voudrais souligner le troisième volet qui est l'information, l'information du public. On tient un site web du GEPAN pour publier l'ensemble de notre activité. L'enquête, c'est compliqué. Et donc, il faut bien comprendre que la page est blanche au départ. Notre exercice consiste à expliquer ou essayer d'expliquer un phénomène. D'abord, on tient une enquête à distance. Et je voudrais souligner que le ON, ce sont des bénévoles qui travaillent pour le GEPAN, qui sont recrutés pour le GEPAN. Et ça, c'est une fierté. Moi, responsable du GEPAN, je suis allé chercher ce management, et le terme approprié, c'est plus animation, de cette équipe de bénévoles qui mène des enquêtes qui travaillent bénévolement pour le GEPAN, c'est-à-dire pour le CNES.
Et qui sont les bénévoles à la base ? Ce sont plutôt des scientifiques, des personnes qui sont qualifiées ?
Alors, elles sont recrutées, formées, c'est-à-dire que en particulier sur des volets psychologiques, voilà, on a un psychologue qui nous accompagne. C'est monsieur et madame tout le monde, hein, on a un informaticien, des retraités, des anciens enseignants, on a également des gens qui travaillent à la SNCF. Voilà, il y a des profils extraordinairement variés, mais ce sont avant tout des gens passionnés et qui ont le logiciel, la démarche, la méthodologie du GEPAN. C'est-à-dire que, voilà, de Sherlock Holmes qu'ils sont tous, hein, c'est-à-dire après l'effet waouh de l'observation étrange ou spectaculaire, hein, je tiens à le dire, il y a toute la démarche et méthodologie du GEPAN que l'on applique et que l'on, avec rigueur, hein, sur cette enquête, première étape à distance. S'il y a besoin, on va sur le terrain, mais c'est relativement peu, hein, c'est moins de 10% des enquêtes qui requièrent d'aller sur le terrain à la rencontre du témoin, à la rencontre de l'environnement, pour bien être sûr d'avoir bien compris tout ce qu'a pu décrire le témoin. Et puis le troisième volet de l'enquête, c'est s'il y a besoin, dans les cas les plus difficiles, je fais appel au comité d'experts. C'est là qu'on s'appuie sur des experts dans des domaines pluridisciplinaires et de disciplines extraordinairement variées et complémentaires.
Donc ça peut être, ouais, par exemple des personnes qui sont qualifiées dans le domaine aérospatial, dans le domaine aussi de l'espace, pour comprendre, peut-être que vous faites un espèce de cheminement d'un domaine à l'autre pour essayer de recouper les informations.
Les experts sont experts météo, experts anciens pilotes, anciens scientifiques, informaticiens... voilà, on a monsieur Jacques Vallée, pour l'anecdote, qui a inspiré dans la rencontre du troisième type le rôle de Truffaut, et qui joue le rôle du français informaticien et qui enquête sur les ovnis. Donc on a ce profil de monsieur Vallée qui est extraordinaire, je dirais. De recul également par rapport à l'ufologie.
Alors pour le coup, rencontre du troisième type, ça va au-delà du scientifique.
Bien sûr.
Science-fiction absolue.
C'est un petit clin d'œil. Voilà.
Est-ce que
je voudrais, s'il vous plaît, juste oui, par rapport à l'enquête, souligner le côté, en termes d'animation du GEPAN, partenaire. C'est-à-dire que le GEPAN, c'est un groupe d'études, mais dans la notion de groupe, il y a le côté très très important qui est les partenaires sur lesquels on s'appuie, à savoir la gendarmerie pour la réception des témoignages, hein, c'est-à-dire des témoins se tournent vers les gendarmes, vers la gendarmerie, et constitue un PV de gendarmerie qui nous est envoyé de façon automatique.
C'est souvent la première porte d'entrée.
Voilà. Il était systématiquement, historiquement pour le GEPAN, c'était un filtre, on va dire, pour être sûr que les témoins voilà, soient sincères et qu'il y ait un passage par un PV de gendarmerie. Actuellement, c'est 10% de nos témoignages qui viennent via la gendarmerie. Et je voudrais souligner les autres partenaires qui sont l'armée de l'air, très précieux par rapport à la surveillance radar de toute l'activité aéronautique, évidemment, sur le territoire français. Météo France, le CNRS, CNRS en astronomie, CNRS en psychologie, et également l'aviation civile. Hein, typiquement, ce sont nos partenaires très précieux dans, dans tous les rouages qui sont ceux du GEPAN.
Vincent Coste, est-ce que les ovnis sont fréquents? À quelle fréquence vous recevez des témoignages autour des ovnis ou des pans? On garde ces deux termes aujourd'hui.
La question est intéressante, bien sûr. La réponse est non, c'est pas fréquent. C'est-à-dire que oui, le GEPAN est débordé. On est débordé parce qu'on mène 100 enquêtes par an. Et que mener une enquête, c'est un exercice et un cheminement assez complexe, assez difficile. Il peut être simple. On trouve un avion, on trouve une trace de l'avion dans les cartes radar de l'armée. Il peut être beaucoup plus complexe et souvent le cheminement peut nous prendre 1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans malheureusement. Je suis désolé par rapport aux témoins qui tardent à avoir un retour sur leur témoignage. Mais 100 témoignages par an ramenés à la population française et au nombre de configurations, de situations que chacun peut vivre, ça reste quelque chose d'anecdotique, mais d'insolite. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que l'insolite existe, le spectaculaire ou la situation incongrue, je ne sais pas quel qualificatif utiliser, existe réellement. Et j'aime à le montrer.
Vincent Coste, tout à l'heure, vous citiez justement Rencontre du troisième type. Et justement, ça c'est intéressant, on associe souvent les ovnis aux soucoupes volantes, aux vaisseaux spatiaux, aux représentations essentiellement portées par la culture populaire. La question qui se pose, je pense que se poseront les auditeurs, c'est est-ce qu'il y a une part de vérité derrière cette culture populaire? À quel point, vous, ça touche aussi vos recherches?
Est très présent, peut être présent, pas si, loin d'être systématique, hein, mais peut être présent et dans la démarche GEPAN, on s'attache à essayer d'identifier la notion de croyance ou de recherche. C'est-à-dire que dans cette culture de l'OVNI, entretient ou peut entretenir chez certaines personnes l'envie de rencontre, l'envie de rêver, de croire en la chose. C'est un constat, je ne juge surtout pas, hein. C'est une bonne chose, le rêve, la pensée et croire en des choses, voilà. Donc par contre, ça peut venir, je dirais, perturber un témoignage qui est dans la démarche EPAN. Voilà, notre démarche consiste à s'interroger, est-ce que c'est un satellite, est-ce que c'est une observation d'astronomie, est-ce que c'est un avion? Voilà, on est sur des choses très pratiques, pragmatiques, je dirais banales même, j'ai pas de problème avec le constat que les phénomènes que l'on trouve in fine sont d'une banalité flagrante. Bon, mais c'est notre démarche. Par contre, effectivement, la culture populaire peut, dans un témoignage, venir influencer et je dirais perturber la réalité de l'observation.
Alors moi, je voulais vous donner une donnée. On va traverser l'Atlantique ensemble, Vincent Coste, et on va aller aux États-Unis, puisqu'en 2022, le Pentagone a souligné une augmentation significative du nombre d'objets signalés dans le ciel depuis plusieurs années. Un rapport qui précise que rien ne puisse suggérer une origine non terrestre de ces phénomènes, mais que cette possibilité n'était pas non plus exclue. On ne sait pas trop. En tout cas, ces pans posent de véritables problèmes de sécurité nationale aux États-Unis. En tout cas, c'est défini comme tel. Est-ce que c'est le cas en France? On s'en inquiète ou pas sur cette question de sécurité nationale?
Alors, je veux être clair par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire que le GEPAN n'adresse évidemment pas, clairement pas, le côté sécurité nationale. Hein. Une enquête GEPAN, entre le témoignage et sa publication, c'est 6 mois au mieux, en général 1 an, et ça peut prendre 2 ou 3 ans. Donc, cette constante de temps qui est la nôtre n'est évidemment pas celle de l'urgence ou de la sécurité nationale. Mais à la fois, c'est pas du tout notre mission, hein, de GEPAN en interne CNES, Centre National d'Études Spatiales. On est un organisme public, on publie tout ce que l'on fait, on a une transparence totale sur nos études. Donc, très clairement, le sujet de sécurité nationale n'est pas le nôtre.
Il n'est pas le vôtre, mais enfin, ma question était plus dans le sens où des organismes publics, des institutions pourraient se tourner vers des professionnels du scientifique, comme vous, pour justement avoir des données, avoir des expertises que eux ne peuvent peut-être pas avoir. Est-ce que vous sentez que ça peut être un sujet, en tout cas, présent en France?
C'est un sujet de façon ponctuelle, c'est-à-dire typiquement, et par les liens qui sont les miens au GEPAN avec l'armée de l'air, typiquement l'an dernier, j'ai eu une sollicitation du responsable du centre de contrôle aérien du Mont-Verdun, là, le centre de contrôle aérien de l'ensemble du territoire français, qui me signalait que 3 pilotes avaient le même soir signalé une boule de feu, une boule lumineuse sur le territoire. Donc là, c'était évidemment une observation classique de rallumage de deuxième étage d'un, de la fusée Falcon 9, là, de la mise en orbite des satellites Starlink. Ça devient une observation assez classique et je l'espère de plus en plus connue parce que, voilà, chez nous, ça devient une évidence. On n'enquête pas du tout sur ces cas-là. C'est quelque chose de facile à identifier, facile à expliquer. Par contre, par rapport à notre partenaire qui est l'armée de l'air, ça a permis de donner tout de suite à cette personne qui nous questionnait et qui a pu relayer au pilote la vidéo, une des multiples vidéos qui nous avait été envoyées ce jour même en témoignage auprès du GEPAN.
Et donc d'apporter des éléments d'explication.
Tout à fait.
Vincent Coste, vous êtes venu en Auvergne, comme on l'a dit en introduction, notamment pour venir à la rencontre d'écoles, un lycée à Clermont, un collège à Puy-Guillaume. C'est quoi le but finalement de ces opérations, de venir à la rencontre des jeunes? Vous vous dites quoi?
Donc très clairement aujourd'hui, c'est l'opportunité de venir à Clermont-Ferrand qui me fait aller dans les écoles. Je ne me déplace pas exprès, c'est-à-dire que le service éducation jeunesse du CNES sensibilise les étudiants par rapport au métier du spatial, au métier de la science plus généralement. Et chaque ingénieur CNES peut un jour par an faire cette démarche dans les écoles. C'est un exercice à laquelle certains d'entre nous se prêtent très volontiers parce que c'est un exercice de rayonnement du CNES, mais de sensibilisation des élèves qui est très intéressant.
Une manière aussi de faire découvrir des métiers parfois cachés. J'imagine que quand on est collégien ou lycéen, on ne se rend pas compte de tout ce qui peut aujourd'hui graviter dans le spatial ou l'aérospatial, au-delà du métier d'astronaute et d'aller poser le pied sur la Lune.
Voilà, alors sensibiliser sur les métiers, c'est pas simple. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour ça que j'en reste au niveau sensibiliser à la science, c'est-à-dire leur montrer que le métier technique, le métier scientifique est passionnant, est fait de découvertes, est fait de choses à découvrir, est fait de technologies, est fait de... Mais du coup, de travail en équipe, de travail avec des métiers de disciplines extraordinairement variées. Donc, je montre ça en images, hein, c'est-à-dire que voilà, les messages passent surtout par des images. Mais j'espère que les jeunes en retiennent le fait que travailler dans la science, travailler pour la science, est un domaine intéressant, passionnant.
Et vous évoquez justement la question des ovnis et des pans ensemble.
Non, le message vers les jeunes, il est évidemment pas ovni. Et le sujet ovni pour le CNES, il est anecdotique. Il est extraordinairement original. Moi, je suis allé chercher l'originalité à la fois de cette méthode de travail et de ce sujet au CNES. Mais le CNES, c'est avant tout des développements de systèmes, des fabrications d'instruments en coopération internationale pour la science, pour des applications grand public d'observation de la Terre, de sciences en tout genre.
Et on parlait de porte d'entrée tout à l'heure, peut-être que ce côté spectaculaire ou insolite peut être une porte d'entrée pour que les jeunes s'intéressent par la suite aussi à la science.
La difficulté en termes de communication, c'est de ne retenir que ça. C'est-à-dire que je suis déjà prudent sur le fait de... Bien sûr que quand je rencontre les étudiants, je leur montre le lanceur, la fusée, parce que c'est un élément clé du spatial. Et je suis toujours prudent parce que bien souvent ils ne retiennent que ça parce que c'est très spectaculaire, ouais. Le lanceur. Et je tiens à aller quand même sur nos métiers à Toulouse qui sont du développement de satellites, développement d'instruments en termes de coopération.
Il faut que ça reste anecdotique, un prétexte, pas le sujet, quoi.
Voilà, il faut pas. Voilà, il faut être prudent sur les messages clés et ce que les jeunes vont pouvoir retenir. Par exemple, je leur montre l'instrument embarqué sur Curiosity et Persévérance, les rovers martiens, là où de niveau français et un petit peu toulousain également, mais le laser est parisien de Thales Laser à Paris. Voilà, leur montrer que la France peut contribuer à des très belles manips ou expériences scientifiques embarquées en coopération avec la NASA, embarquées sur Mars, et c'est une très belle aventure.
Et alors justement, et ce sera ma dernière question, vous sentez une acquaintance de ces jeunes pour la science qu'il y a un regain d'intérêt, voire peut-être un véritable amour pour aujourd'hui les sciences, le spatial, l'aérospatial?
La question est trop ambitieuse. Là, vous me surestimez ou vous surestimez l'expérience ou la démarche ponctuelle qui est celle-là. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'en termes de sensibilisation ou d'éveil d'esprit ou d'ouverture d'esprit, c'est un éclairage très intéressant et je suis convaincu qu'il en restera quelque chose.
Merci Vincent Coste d'avoir été parmi nous. Je le rappelle, vous êtes chef de service au Centre national d'études spatiales et également responsable manager au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Merci beaucoup.
Merci à vous.